Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et ça y est, nous y sommes, fin de cette journée du dimanche. Le week-end a été bon, je vous le souhaite. Salut Pierre.
Coucou Malolo, comment ça roule?
Bien, ça roule plutôt bien. Mais, ça roule un peu fraîche quand même. T'as vu qu'on gratte les voitures le matin.
Ça y est, maintenant, moi, tu sais que je pars tôt le matin. Donc là, c'est là, je gratte. J'arrête pas de gratter. Avant l'émission, je gratte. Je fais que ça. Je gratte tout le temps. Qu'est-ce qui t'arrive, Malolo?
Je sais pas.
Tu me vois gratter, ça
te
fait
rire. Je te vois gratter ta voiture et du coup, ça me fait rire, effectivement. Alors, on ne va pas parler que de voitures d'ailleurs dans notre rendez-vous. Ça roule ce soir. On va donner la parole aux deux roues et aux motards en particulier, Pierre.
Oui, parce que les pauvres, j'ai envie de dire les pauvres, jusqu'à présent, ils pouvaient encore stationner dans Paris, dans la capitale, dans d'autres villes de France sans que ça pose de problème. La moto participe à la décongestion. Imaginez que demain, tous les motards basculent dans une voiture. Bon, bah, c'est fini, on ne roule plus, hein, c'est terminé. Eh bien, les motards, c'est fini. Maintenant à Paris, ils vont devoir partir. Enfin, sauf miracle de la Fédération française des motards en colère, mais ils en sont capables. Mais à partir du 1er janvier, eh bien ça coûtera très cher, très très cher de stationner dans Paris et dans beaucoup d'autres grandes villes de France. On sera avec la FFMC ici.
Exactement. Pour les deux roues thermiques, c'est important de le préciser, de 2 à 3 euros de l'heure. Waouh, c'est pratiquement c'est le même prix qu'une voiture, quoi, en gros. On en parle en détail. Deuxième sujet. Alors comme ça, à partir du mois de juillet 2022, si j'achète une voiture neuve, j'aurai un limiteur de vitesse?
Ouais, le limiteur, autrement appelé par beaucoup le limitateur.
Moi,
non,
j'adore.
C'est un limiteur.
Non, parce qu'un limitateur, c'est Laurent Gérard, par exemple.
Voilà, c'est un limitateur. Eh bien, ce limiteur de vitesse qui arrive dans nos véhicules, il est bourré de failles. On nous met à l'échelle européenne, à la Commission européenne, un limiteur de vitesse obligatoire dans les voitures. Et là, vous vous dites, chouette, c'est fini les radars. Terminé, on est tranquille, puisque dès qu'on passe la limitation, bim, eh ben la voiture réagit toute seule. Ça serait magique, hein? Eh ben non, ça va pas se passer comme ça, parce que vous imaginez bien que la poule aux œufs d'or des radars fonctionnera encore, et qu'en plus de ça, il y a tellement de failles dans ce système que c'est une vraie passoire.
Et puis, est-ce que vous êtes pour ou contre avoir votre voiture qui décide d'elle-même de vous obliger à ne pas accélérer parce que vous êtes à la bonne vitesse ou que vous l'avez dépassée et qu'elle redescendre?
On dirait les prémices de la voiture autonome quand même.
Oui, et puis un peu, je ne suis plus complètement libre de ce que je fais.
Ouais, ce qui me gêne, c'est Convention de Genève, Malolo. Je dois rester maître de mon véhicule en toutes circonstances. Bah là, c'est le véhicule qui est maître.
On en parle en détail avec vous sur les deux sujets, pour ou contre le stationnement payant pour les deux roues thermiques. C'est-à-dire que si vous avez une deux roues électriques, vous pouvez stationner gratuitement 0826 300 300. Pour ou contre ce fameux limiteur de vitesse intégré sur les voitures neuves 0826 300 300. Et je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, vous venez échanger avec Pierre sur un sujet qui vous taraude concernant la route. C'est le même numéro de téléphone ou sur Facebook, la page Sud Radio.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour Paris, entre autres, et La Petite Couronne est avec nous. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Bon, bah, bienvenue au club.
Ouais. Merci. Hein, on va vous mettre la main à la popoche.
Maintenant, il va falloir payer. C'est fini. C'est terminé, ça, les motos. Tu stationnes et tu ne payes pas. Eh ben voilà, vous payez aussi. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, les trottinettes et les vélos qui sont garés n'importe comment, eux, ils ne payent pas.
Et oui, et pourtant, ils s'occupent de l'espace public.
Et puis,
de la même manière, un deux roues, c'est un deux roues.
Et puis, les scooters électriques, les motos électriques ne payent pas. Non. Alors pourtant, ça prend aussi de la place.
Ah ben oui, mais on ne comprend pas très bien la logique, si ce n'est que j'ai envie de commencer comme ça. Alors, Paris continue sa chasse aux moteurs?
Oui, on a bien l'impression, effectivement. Madame Hidalgo, c'est une de ses promesses de campagne, de toute façon. Étant donné qu'elle est passée grâce aux écologistes, elle envoie l'ascenseur aux écolos les plus intéristes, puisqu'on les a à Paris, ceux-là. Effectivement, c'est une vraie chasse aux deux roues motorisées, aux moteurs thermiques en règle générale, puisque de toute façon, après, c'est pas une surprise, on avait parlé déjà depuis un bout de temps.
4% dans les sondages en menant la vie dure aux automobilistes. Si on se met à mener la vie dure aux motos, il va pas rester grand-chose.
Mais en fait, c'est passé au mois de juillet, c'est ça, Jean-Marc?
Alors oui, ça a été voté au mois de juillet. Enfin, c'est passé
janvier.
Au mois de juillet, ça a été passé le 19 juillet, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, alors il faut savoir que en 2017, ça avait déjà été voté pour les trois roues motorisées.
Oui.
Et ça, nous, on le savait pas. on a donc
lancé Mais c'était pas appliqué.
C'était pas appliqué. Donc on a lancé, nous, deux procédures contre la mairie de Paris. Une par rapport aux trois roues motorisées pour qu'ils puissent payer le prix d'un deux roues motorisées, en fait, hein, parce que en fait, les trois roues motorisées,
il est
prévu que ça assimile une voiture, ils paieront le prix d'une voiture. Et la deuxième procédure, c'est pour ne pas du tout avoir le stationnement payant pour les deux roues motorisées. Donc, il y a deux procédures en cours.
Comment elle est née, cette folie?
17 manifestations en 12 mois.
Ah oui, ça c'est... Quand ils partent en tournée à la FFMC, c'est digne de Jean-Jacques Goldman. Hein.
C'est ça. C'est ça.
Attention, ça rassemble à peu près autant de monde.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de retour.
Non.
Vous l'avez dans le baba, en fait.
Non, mais ils sont...
Jamais.
La démocratie, c'est avant le vote. Avant le vote, ils pleurent tous pour qu'on vote pour eux. Puis à un moment donné, quand on a voté pour eux, ils appuient sur le bouton. C'est eux qui décident seuls, en fait.
Bon, alors, on va essayer de faire la genèse un petit peu. Moi, je voudrais comprendre, il y a environ 2 ans, à peu près, on était sur ce combat contre la mairie de Vincennes qui avait décidé de faire payer les motards. Ça a été la première pièce de l'échiquier médiatique. Où on en est sur les autres villes, Vincennes, par exemple?
Alors Vincennes, ça continue à être payant, sauf que Vincennes, c'est 3 fois moins cher.
C'est ça, parce que là, le prix, il est exorbitant. On passe de 0
c'est ça.
Alors, à 3 euros de l'heure.
C'est-à-dire qu'en réalité, on va payer, si ça passe, hein, parce que nous, on va se battre jusqu'au bout, mais en tout cas, si ça devait passer, on devrait payer moitié prix d'une voiture. Ce qui est complètement illogique, dans la mesure où un deux roues motorisé, ça prend entre 3 et 4 fois moins de place, puisqu'on met entre 3 et 4 deux roues motorisées sur un emplacement de voiture. Ce qui veut dire donc que le deux roues motorisé, avec toutes les plus-values qu'il apporte en termes de fluidité, eh ben, il va payer proportionnellement plus cher qu'une voiture.
Alors, on va essayer.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait qu'un deux roues motorisé prend deux ou trois. Enfin, il y en a pour une place de voiture, c'est deux ou trois. En fait, maintenant à Paris, puisque vous n'avez plus le droit de vous garer sur les trottoirs, j'imagine que c'est peut-être la même chose dans les grosses villes de France comme Lyon, Strasbourg, etc.
Non, pour l'instant, c'est pas. Enfin,
j'en vois un sur une place de. À chaque fois, c'est une moto pour une place de voiture.
Oui, alors après ça dépend comment,
ça dépend comment on la stationne.
Je peux vous dire, moi, donc, de par expérience.
Honnêtement, moi je ne le vois pas beaucoup, mais les motards se garent plutôt dans le sens, comment dire, transversal.
Pas partout.
Et dans le sens transversal, il devrait le faire d'ailleurs. Et là, on met entre 3 et 4 deux roues motorisées sur l'emplacement d'une voiture.
Moi je vais vous surprendre, avant qu'on parte au 0826-300-300.
Wow.
Je suis le DG de 40 millions d'automobilistes et pourtant je soutiens cette mesure de gratuité du stationnement pour les motards. Pourquoi ? Pas parce que j'ai envie de faire payer les usagers, je suis pas assez schizophrène pour ça, je suis pas au gouvernement, mais ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'on oublie l'aspect fluidité.
C'est ça.
C'est-à-dire que on est dans les grandes villes, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble, je suis sûr que le maire de Grenoble ne nous écoute pas, ça au moins c'est une certitude. Eh bien, dans toutes ces villes, elles sont congestionnées. Voilà le rapport entre toutes ces villes. On a de plus en plus de bouchons, de plus en plus d'habitants, de plus en plus de besoins de mobilité, donc fatalement, de plus en plus de voitures. Et derrière, des bouchons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai regardé la moyenne en Île-de-France. On est quasiment, Laurence, à 500 km de bouchons par jour le matin.
Surtout depuis la reprise, là, de
septembre. C'est quasiment à 100 ou 200 km près. C'est l'équivalent des chassés croisés de l'été pour partir en vacances. Mais là, c'est que sur l'Île-de-France. On baigne dans la folie. Donc, il faudrait un maximum d'usagers, justement, sur des deux roues motorisées et inciter aux deux roues motorisées pour permettre à ceux qui veulent garder leur voiture de pouvoir rouler plus fluide.
Et puis, pareil pour Marseille, parce qu'on sait que ce qui commence à Paris
c'est la gangrène.
Ça va faire la tache d'huile. Ouais. Marseille, qui est quand même l'une des villes les plus bouchées de France, va risquer de vivre la même chose. Bordeaux, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est pas une super solution. On part voir Guy. Enfin, on accueille Guy, pardon. C'est lui qui vient nous voir au standard de Sud Radio. Salut Guy.
Bonjour madame, bonjour messieurs.
Bonjour monsieur Guy.
Alors, vous êtes à Paris, vous? Est-ce que vous êtes favorable au fait que les deux roues motorisées thermiques, attention, c'est important, payent le stationnement?
Alors déjà, on met un obstacle, on met un paramètre supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'un deux roues thermique aurait à payer un stationnement et pas un deux roues électrique?
Je suis d'accord, ils prennent la même place.
C'est la même place.
Alors bon, ça s'appelle de la manipulation pour nous pousser tous à aller vers l'électrique, hein, de toute façon.
D'une part, et puis bon. Mais vous savez, moi j'ai 71 ans, donc ça fait des dizaines d'années que ça revient régulièrement ce sujet revient régulièrement pour le paiement des deux roues et par rapport au véhicule. Bon.
Le problème, c'est que ça y est, c'est fait.
Oui, c'est fait. Par contre, l'argument, tout ce que vous possédez comme surface en France est payable. Que ce soit un appartement, un champ, que ce soit un étal sur le trottoir, que ce soit des tables pour les restaurateurs, il y a une taxe à payer.
Je suis pas d'accord, Guy. Je suis pas d'accord, Guy. Non, mais juste sur un point, je vous reprends. Et ça dure une seconde, mais écoutez bien. Dans la loi, hein, le principe du stationnement en ville, c'est la gratuité. Et c'est d'ailleurs, et on a besoin de délibération motivée du conseil municipal pour le rendre payant. Allez, je vous écoute, Guy.
Je vais y revenir. C'est de manière à faire un principe d'équilibre, un principe d'équité. Tout ce que vous utilisez comme surface dans ce pays est payable. Bon, le tout, c'est d'avoir que ce soit pas une taxation effroyable comme ça se passe depuis des dizaines d'années. Ce véhicule, c'est la vache à lait du gouvernement. Donc, qu'il y ait un petit paiement, je suis d'accord. Mais pas au coût il est à l'heure actuelle. Quand je vois des places à 2 euros, 3 euros, 4 euros de l'heure, c'est du racket.
Alors, il faut savoir que pour les automobilistes, ça va passer de 4 à 6 euros. Hein.
Oui,
soit 50% d'augmentation pour les automobilistes, c'est énorme. Le taux horaire net du SMIC, il est à 8 euros.
Mais compte tenu aussi de toutes les taxes que paye ce véhicule par la taxation sur l'essence, c'est effroyable déjà. Bon, si en plus on rajoute ce principe-là, cette horreur, ça c'est dégueulasse, c'est du racket. Je serais d'accord pour qu'il y ait une faible taxe simplement pour éviter qu'il y ait des véhicules qui restent perpétuellement à la même place et qui ne bougent pas.
Les voitures ventouses, Guy.
Donc une petite taxe.
Et je vous le prouve, Guy, parce qu'en fait, on nous a habitués en France à nous faire croire que si le stationnement est gratuit, il va y avoir des voitures ventouses. Eh ben, je vous emmène en voyage du côté de Calais. Ça y est, vous y êtes. Calais, c'est pas une petite ville quand même. La maire de Calais, Natacha Bouchard, quand elle est arrivée, sa première décision municipale, la première, c'est de faire la charte de l'arbre ou d'enlever les sapins de Noël. La première de toutes les mesures de Natacha Bouchard a été de rendre le stationnement gratuit. Tout le monde lui a dit, mais il y aura des voitures ventouses partout, ça va être la catastrophe, il n'y aura plus de place en centre-ville. Et au final, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, jamais il y a eu autant de fluidité dans la ville de Calais. Jamais on a trouvé autant de places de stationnement, parce que quand c'est gratuit, vous ne la laissez pas, votre voiture. Vous savez très bien que vous allez retrouver une autre place gratuite.
Allez, on continue de parler de ce sujet, des deux roues motorisés thermiques qui vont devoir payer à partir du 1er janvier. Le stationnement à Paris, ce sera peut-être le cas dans d'autres villes, 2 à 3 euros de l'heure. Et vous, vous en pensez quoi? Merci beaucoup à Guy de Paris, d'ailleurs, d'être venu nous donner son avis. Normalement, dans quelques
Avant
instants,
de déménager.
On aura un autre avis de votre part. N'hésitez pas à nous appeler. Et puis, on parle du stationnement payant, et surtout quand on ne paye pas, surtout à Paris, c'est 50 euros le PV. Est-ce que ce sera pareil pour les motos? On en parle en détail dans quelques instants.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Dès le 1er janvier 2022, les motos et scooters de route thermique devront payer le stationnement. On en parle évidemment avec vous au 0826-300-300. Vous venez nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette nouveauté ou pas du tout? Et Pierre, on continue évidemment d'en parler avec Jean-Marc Bellotti, qui est le coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour Paris. Et là, petite couronne.
Il a du boulot, le pauvre. Hein. Il a du boulot, Jean-Marc.
On parlait un peu, pendant la petite pause rapide, là, du prix réel du stationnement.
Oui, parce qu'on nous a dit 2 euros pour les arrondissements limitrophes de banlieue, et pour le cœur de Paris, plutôt 3 euros. Vous nous dites, sur Sud Radio.
C'est la première heure, et en fait, le tarif réel, ça, c'est la première heure. En réalité, la zone 1, elle sera de 3 à 9 euros, et la zone 2, elle sera de 2 à 6 euros.
La zone 1, c'est quoi?
Alors, là,
c'est le centre de Paris, je pense. Hein. Voilà. L'escargot qui part du premier.
La zone 1, c'est du 1er au 11e arrondissement. Et la zone 2, c'est du 12e au 20e arrondissement, Bois de Vincennes et Bois de Boulogne.
Waouh. Non mais 9 euros de l'heure.
Dans le Bois de Boulogne, une heure, ça suffit, non?
Ça va bientôt être plus cher que...
C'est pour ça qu'on vous appelle Lapin, Pierre Chasseret. C'est ça. Non mais c'est ce qui est dingue, Jean-Marc Bellotti et Pierre Chasseret, et puis pour vous tous qui nous écoutez, c'est quand même que... Alors, pour être très honnête, que les motos payent un peu 50 centimes à la limite, ou qu'il y a un petit forfait quand tu t'arrêtes, comme les autres utilisateurs de la chaussée.
Mais pourquoi faire? En fait, l'idée, c'est pourquoi faire? Ça participe d'une idée qui est de dire que si tu as une voiture ou une moto, tu es riche. Tu peux payer. En fait, ça participe de cette anti-démocratisation de la voiture. Non, pendant longtemps, on nous a dit, la voiture, la moto, c'est plus un symbole social. Ça y est, c'est un symbole social. Hein. Maintenant, quand carrément. Tu peux faire un plein d'essence et que tu as une voiture, t'es crésus. Mais hein.
le souci, si on remonte un peu en amont, c'est que les prix à Paris, les prix des loyers à Paris sont tellement chers, les prix de l'immobilier tellement chers que beaucoup de gens se sont exportés vers la banlieue. Donc, ça crée du déplacement. Donc, ces gens-là, non seulement on les fout dehors parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester à Paris, mais en plus, maintenant, on leur demande de payer pour rentrer travailler. Et ça, ça pose un vrai problème social. Et là, on part de la petite couronne, pardon, qui devient encore de plus en plus chère, et les gens s'exportent encore de plus en plus loin. Tout ça, ça crée du déplacement. La différence, enfin, le kilomètre entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, ça crée ce déplacement-là, qui est obligatoire. Alors évidemment, les transports en commun, ils ne sont pas toujours performants. Et les gens, ils ne peuvent pas venir à vélo quand ils habitent à Cergy-Pontoise et qu'ils viennent travailler à Paris, pas tous les jours.
Alors,
le vélo, c'est bien en intramuros, dans les villes. Ouais. Quand
l'hiver, on fait 2-3 bornes. Sous la flotte, pas en 15 bornes. Non,
mais 2-3 bornes par jour, ok, un vélo. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Jean-Marc Bellotti. Vous qui êtes coordinateur pour la région parisienne Petite Couronne de Paris, je vais carrément y aller, moi. Pourquoi est-ce que les motos, quelles qu'elles soient, n'auraient pas à payer un stationnement comme le font les automobilistes ?
Mais parce qu'elles apportent, on nous parle de, mobilité, de fluidité, etc., d'écologie.
Non, mais sur le principe, sans même parler de ça, sur le principe d'égalité.
Mais c'est pas un principe d'égalité, c'est pas le même véhicule.
Que si.
Mais non,
le vélo,
parce qu'un deux-roues motorisé,
non, parce que
le vélo, il prend pas beaucoup de place.
Ah bah ouais, mais c'est plein pour comment
les vélos cargo. Les vélos cargo.
Ah, ça, voilà, les vélos cargo, c'est la même.
Non, mais c'est pas ça. Si on parle d'équité, et on part principe, dans ces cas-là, on fait payer tout le monde, ce qui serait ridicule. On ne va pas faire payer les vélos. On nous parle d'occupation de l'espace public aujourd'hui. Vélo, par exemple,
non, mais
le
moto,
plus en plus d'espace public.
Je vais faire exprès.
En plus, ça coûte cher l'espace public.
Mais le moto, c'est plus large.
Oui, mais ce n'est pas beaucoup plus large. En fait, l'espace public, si on nous dit ça, ça veut dire que les pistes cyclables, pour plusieurs millions d'euros, à les fabriquer.
Ah oui.
Ok. Maintenant, le premier problème du vélo en ville, c'est le vol. Donc, on met des infrastructures pour qu'ils puissent attacher, les gens puissent attacher les vélos, sinon ils sont accrochés aux grilles des métros et des musées. Donc, tout ça, ça coûte des sous. Donc, là aussi, il faudrait faire payer puisqu'ils utilisent l'espace public et en plus c'est payant. Donc, on n'est pas pour faire payer les vélos, bien évidemment, ça serait ridicule. Mais nous, on ne demande rien, on demande juste de la peinture au sol, ça ne coûte rien. Et il faut savoir qu'un deux-roues motorisé, c'est pas un véhicule en plus dans la circulation, c'est une voiture en moins. Parce que souvent, ce sont des automobilistes qui sont passés de la voiture au deux-roues motorisé pour avoir un peu plus de mobilité, de fluidité.
Je vous ai énervé là.
Non, pas du tout. c'est cohérent de rouler avec un deux-roues motorisé.
Il faudrait être
quand même aveugle et de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'un deux-roues motorisé, c'est une vraie solution de fluidité en ville.
Mais est-ce que vous comprenez que les gens, évidemment comme moi d'ailleurs, on puisse se dire, bon, moi je suis très
moto. Mais parce qu'ils
ne
vont pas plus loin dans la réflexion.
Mais c'est pas une histoire de réflexion.
Lolo, regarde ce qui se passe.
Est-ce que vous comprenez
non, mais le problème, ça c'est très français. Ça c'est très français. On dit les autres qui payent, donc tout le monde doit payer.
Jean-Marc, on augmente les motos, mais Lolo, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va en profiter pour en rajouter un petit peu sur les automobilistes. Et voilà comment c'est perfide, comment ça se fait de manière insidieuse. Eh bien, en fait, on dit, regardez, on va faire payer les motos, parce que principe d'égalité, blablabla, etc. Et pendant ce temps-là, bang, on va doubler le prix du stationnement pour les automobilistes.
On
en est victime.
On apporte vraiment une vraie solution. Je veux dire, on optimise l'espace public. On optimise l'espace intérieur. Regardez, il y a des gens qui viennent travailler en voiture. Souvent, ils sont seuls dans une voiture de 4 à 6 places et de 2 tonnes. Mmh. Bon, mais nous, on les fistuche pas. Je veux dire, on les stigmatise pas. Il y a des gens qui peuvent pas faire autrement que de venir travailler en voiture. Sauf que le deux-roues motorisé, c'est une vraie solution parce qu'il apporte beaucoup d'avantages par rapport à une voiture. Mais après, si les gens veulent rouler en voiture, roulent en voiture. Mais c'est pas facile, c'est pas super rigolo de venir travailler avec un deux-roues motorisé. On parlait d'hiver tout à l'heure. Prendre la flotte, quand il fait froid, etc. C'est pas un plaisir.
Jean-Marc,
donc il y a des gens qui font déjà cet effort-là.
Oui, mais Jean-Marc, on peut pas. Le truc, il est aussi.
Mais c'est pas de l'équité du tout. C'est pas le même véhicule.
C'est pas qu'une histoire de véhicule.
Pourquoi dans ces cas-là, pourquoi on ne fait pas payer les piétons parce qu'ils marchent dans la rue, parce qu'il y a des bancs pour qu'ils puissent s'asseoir? Ce serait ridicule.
Mais il serait capable de le faire.
Il y a un truc qui est vieux comme le monde qui s'appelle les impôts. Et c'est avec ça qu'on paye l'espace public.
Je suis d'accord avec vous.
C'est avec ça qu'on paye l'espace public.
Mais de toute façon.
Et si une mairie a besoin de la recette du stationnement pour survivre, c'est qu'elle a un problème de gestion, comme la mairie de Paris a un problème de gestion avec ses 7 milliards de dettes.
Évidemment. Mais là, on met le truc sur. On met le doigt sur le vrai sujet. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser que. Une grosse moto.
C'est très français. L'autre, il paye. Je paye, il faut que l'autre, il paye aussi.
Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. C'est qu'une grosse moto, une grosse BM ou une grosse Harley, machin, elle prend pratiquement la place d'une voiture. Et je peux.
Dans une place de voiture.
En stationnement.
On en met trois. Après, il n'y a pas autant de grosses bécanes que ça dans Paris. C'est beaucoup de scooters. 80% de scooters par rapport à 20% de motos dans Paris.
Ce qui est dégoûtant, c'est que
ce sont des automobilistes qui se sont passés un modèle plus mobile.
stationnement à Paris, de toute façon, qui pour les bagnoles et bien sûr pour les motos, c'est ahurissant. Ce qui est dégoûtant aussi, c'est pourquoi vous, les thermiques, vous allez payer et pas les électriques, là, on est aussi dans la manipulation. Mais voilà, moi, je suis, mon rôle, c'est aussi de vous dire, bah, c'est peut-être
mais
un peu.
Parce que là, on parle d'écologie. Non, alors, ce serait pas idiot, non, mais ce serait pas idiot de dire, bon, les électriques, ils polluent pas, donc, enfin, ils polluent pas ici, ils polluent ailleurs, mais on pourrait ne pas les faire payer. Mais il faut savoir qu'un deux roues motorisées, on représente 2% du parc roulant.
Oui, je sais.
2% du parc roulant, et on représente 0,5% des émissions polluantes.
À mi-motard, je faisais exprès. Alors, ceci étant dit, je pose la question.
Si on interdisait tous les deux roues motorisées de circuler, ça n'apporterait absolument rien en termes de qualité de l'air.
Là où je suis d'accord avec Pierre, c'est que de toute façon, vous allez payer, puis après, ils vont faire payer d'autres, et puis payer d'autres, et puis payer d'autres. On a Michel-Ange qui est avec nous. Michel-Ange, bonjour Michel-Ange, ça va ?
Bonjour, ça va très bien, oui, ça va.
Bienvenue dans la passion.
Merci, oui, mais je suis un grand passionné de moto, donc. Et je vous entends, et puis. Oui, bien sûr, je sais bien. Mais comme vous dites, c'est que bon, là, ils vont faire payer le stationnement pour les motos, mais à court terme, dirons-nous que dans deux ans, bah, ça sera les vélos qui vont faire payer.
Mais non. Ça commence déjà un peu parce que on a mis, ils mettent en place des infrastructures protégées, protégées devant les gares notamment, pour mettre les vélos à l'abri, comme ça se passe au Japon d'ailleurs. Ouais. Et là, c'est des espaces payants maintenant. Oui, quand les vélos rentrent dans un stationnement protégé, c'est payant.
C'est un espace protégé parce que le problème,
mais
c'est
ça commence comme ça. De toute façon, plus il y aura de vélos, plus ça. De toute façon, le problème, c'est le nombre. Plus on est et plus on fait chier le monde. Et à un moment donné, quand on fait chier le monde, le législateur légifère. Et donc, à un moment donné, c'est sûr que quand il y aura énormément de vélos dans Paris, ça va commencer à poser un problème, non seulement au niveau de l'accidentologie, mais ça en pose déjà après, on va les obliger à porter un casque, à avoir une plaque d'immatriculation, puis après ils vont payer. Si on a beaucoup, bien sûr, clairement, ça va poser un problème.
Alors Michel, on vous écoute.
Oui, pour moi, c'est une façon, pas déguisée, mais ouverte, mais on ne peut rien faire d'autre, mais c'est de vouloir récupérer à tour de bras de l'argent pour quoi faire, mais c'est...
Je ne pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que c'est la volonté, c'est dégoûter tout ce qui a un moteur, tout ce qui vient de l'autre côté de ce mur.
Je pense que c'est plus idéologique que financier, en fait. C'est plus idéologique.
Moi, je suis assez d'accord avec Pierre, parce que même moi, qui suis très pro voiture et moto avec mes potes, de plus en plus, on commence à revenir en RER. J'ai acheté une carte de RER. Au secours.
Pas toujours performant, moi, je prends en commun. Il y a des banlieues qui sont enclavées, c'est galère pour certaines personnes.
La mienne, c'est
travailler.
Ça, moi, pour venir travailler ici.
Quand
tu es
dans Paris, pas de problème, le RER, enfin, je veux dire, le métro, le bus, les vélos, les machins, on peut tout faire dans Paris.
Mais ce que dit Pierre, en fait, c'est que la volonté, c'est nous virer, en fait.
Et le problème, c'est que.
Oui, bien sûr,
il y a deux stratégies. Il y a deux stratégies.
En fait, Paris, elle assume tout à fait le fait de virer tous les moteurs thermiques de la ville.
Oui, mais quand on veut aller au bout, c'est-à-dire faire en sorte que la ville, il y ait moins de moteurs, etc., vous avez deux stratégies. La première, c'est comme pour draguer une fille. Hein. Vous avez la stratégie de la contrainte, vous lui tordez le bras et vous lui dites « Bon, maintenant tu es ma chérie, ça marche pas, c'est pas très durable. » Non, mais on est d'accord. Et la deuxième, mais ça, c'est la stratégie Ville de Paris. Hein. La stratégie Ville de Paris. D'accord. La deuxième stratégie, c'est la séduction. C'est lui montrer que
qu'il n'y a pas d'avantage.
Mais bien sûr, mais parce que c'est exactement ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus durable et le plus convaincant ? C'est la séduction. Il faut convaincre les automobilistes, les usagers en moto, qu'on leur offre d'autres solutions qui sont bonnes. La stratégie de la contrainte, de tordre le bras en disant à quelqu'un « Maintenant, tu vas faire comme je te dis ». Je suis désolé, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas.
Non, mais il y a rien de prévu pour que les gens qui utilisent les deux roues puissent venir sur Paris sans utiliser les deux roues, puisque même aux approches des gares de RER, etc. Même si on disait on va jusqu'à une gare proche de RER pour prendre le RER. Mais il n'y a rien qui est prévu pour se stationner.
Il n'y a pas de parking relais, exactement.
Alors, il y en a deux, trois, mais ils sont très chers. Donc,
deux ou trois sur la totalité, ça ne veut rien dire.
Les deux roues motorisées sont toujours les grands oubliés. Hein, et quand on pense à eux, c'est pour les stigmatiser ou pour les pénaliser. Vous savez, vous rendez compte quand même que, par exemple, le comotorage n'existe pas. On est en train de parler de voies là, sur le périphérique qui seront bloquées pour le covoiturage. Donc, à partir de deux personnes, vous êtes considéré en covoiturage, en voiture. À moto, si vous êtes à deux, ça n'existe pas.
Oui, mais vous pouvez rouler interfile quand même. Enfin, attention, ça reste une expérimentation, c'est pas...
Pour conclure le sujet, Jean-Marc Bellotti, que j'ai beaucoup aimé, un peu taquiné là, coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère pour Paris et la Petite Couronne.
J'ai l'habitude.
C'est un peu mon rôle. Vous faites quoi là pour essayer de... Qu'est-ce qui se passe concrètement auprès de la mairie de Paris pour essayer de faire capoter leur projet
Je vous dis, donc deux procédures en cours avec Maître Éric de Caumont.
des manifestations qu'on connaît bien, ouais. Des manifestations qu'on va pas arrêter. Hein. C'est la dernière, c'est samedi dernier, et donc on va continuer. Et puis, bah, on essaye de les rencontrer à chaque fois, discuter avec eux. Mais alors, ils sont gentils, hein, ils sont agréables, ils sont accueillants, etc. Mais bon, en même temps, c'est des murs, quoi. Et ça passe pas à travers quand on parle. L'impression que y a rien qui passe, quoi, à travers les oreilles.
C'est compliqué en ce moment les samedis d'organiser des manifestations.
Non seulement c'est compliqué, mais on sent le ton durcir au niveau de la préfecture de police de Paris, qui par exemple nous a menacé de nous convoquer devant le procureur parce qu'on a mis un peu de temps à traverser le périphérique. Vous voyez, on en est là. Et ça, c'est nous, mais c'est tous les autres organisateurs de manifestations. Il faut savoir que la mairie, la préfecture de police durcit de plus en plus le ton. Donc attention aux libertés, quelle que soit la manifestation, attention aux libertés.
J'ai voulu lancer une opération escargot.
Parce qu'ils font carrément de l'entrave à la liberté de manifester. Hein.
J'ai voulu lancer une opération escargot sur le périphérique et je me suis dit, ça sert à rien l'opération escargot, c'est tous les matins, ça avance pas. Donc ça se verrait même pas.
Bon, en tout cas, vous l'avez compris, hein, les motards en colère sont encore plus en colère. Merci beaucoup, Jean-Marc Bellotti.
Merci à vous de nous donner la parole.
Mais vous savez que vous êtes toujours le bienvenu ici parce que nous, ça roule. Et ça roule avec les voitures, les motos, les pompiers, les routiers.
Le partage de l'espace public.
Exactement, parce que c'est le plus grand réseau.
Le réseau social de France, on roule tous dessus, on se croise tous dessus, les petits, les moches, les intelligents, les riches et les moins riches, on est tous sur la même route.
Merci
beaucoup. Les petits, pauvres et moches, ça sera très dur pour eux.
Exactement.
Merci beaucoup à Michel-Ange qui nous a appelé de Haute-Garonne. Dans quelques instants, on va passer au deuxième sujet de notre rendez-vous avec ces fameux limiteurs de voitures qui seront intégrés sur toutes les voitures neuves. Et en gros, si vous dépassez la vitesse de la route, et la voiture elle va ralentir et vous pourrez même plus vous servir de votre accélérateur. Vous n'aurez plus non pas la main, mais le pied dessus. À tout de suite.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Avez-vous entendu cela ? Moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Le sujet est tombé mardi dernier de cette semaine. Comme quoi, nous allions, sur les prochaines voitures neuves en 2022, avoir des limiteurs de vitesse, des choses qui vont nous empêcher d'aller plus vite que la voiture autorisée. On en parle avec vous. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien ? 0826-300-300. Pierre, c'est quoi ce délire ?
Alors, on va essayer de décrypter un petit peu le comment ça fonctionne. Alors, dans notre voiture, depuis maintenant quelques mois, on a tous un système e-call, c'est-à-dire une petite puce, un petit GPS, en fait, dans la voiture, une petite puce comme une carte SIM, qui permet les services de géolocalisation en cas d'accident. Mmh. Vous imaginez bien qu'avec ça, on nous a pondu la mesure qui va avec. Eh bien, c'est le limiteur de vitesse qui pourra être connecté via cette petite puce. Deuxième option, ce contrôle de la vitesse pourra se faire aussi via une caméra que vous posez dans la voiture qui reconnaîtra directement les panneaux routiers. Et donc, si vous avez un panneau à 90, eh bien, admettons que vous étiez à 100 km/h, vous allez sentir sur votre pédale de droite, sur la pédale de l'accélérateur, une résistance très forte qui va faire que naturellement, vous allez relâcher la pédale et donc réduire votre vitesse. Si vous êtes largement au-dessus de la limitation de vitesse, la voiture freine de manière assez sèche quand même et qui peut surprendre l'automobiliste.
Et ceux qui sont derrière.
Petite faille au produit, moi je dis toujours que pour parler de quelque chose, le mieux, et ça Laurence, tu en sais un petit bout, il faut essayer, hein, Madame M6 boutique.
Oui, toi aussi, t'aimes bien essayer.
Alors j'ai essayé, j'ai testé, ça fonctionne du feu de Dieu. Alors je vais expliquer un petit peu.
Vous plaît pas ça ?
Non, pas du tout. J'étais sur autoroute 130 km/h, donc je limitais, comme je teste le produit, j'étais aux alentours de 120 km/h. Sur la voie en train de dépasser, j'étais sur la voie du milieu parce que je dépassais un véhicule. La caméra embarquée de la voiture distingue un panneau qui était sur la voie de décélération, la sortie d'autoroute. Elle lit un panneau 70. Ma voiture réagit, elle pile. Je suis sur la voie du milieu à 120 et bim, je sens que ça pile à 70. C'est contre-intuitif d'aller à l'encontre de la pédale d'accélérateur pour contrer le freinage et donc accélérer à nouveau. J'ai trouvé ce système extrêmement dangereux. Je continue ma route, je sors de l'autoroute, je suis sur une route où le panneau de limitation de vitesse est masqué. Eh bien, la voiture croit encore que la limitation de vitesse est à 50 alors qu'elle était repassée à 90. Devinez qui était celui qui se traînait sur la route, eh bien c'était Bibi coincé à 50 km/h. Alors, vous pouvez contrer, encore une fois, mais il faut appuyer fortement sur la pédale de droite. Alors là, je me pose des questions. Parce que je me dis, le système, objectivement, il n'est pas mûr. Il n'est pas bon. Et pourquoi on met ce système en place alors qu'on a un outil qui n'est pas encore d'une fiabilité à 100%?
Et Pierre, on n'en avait pas entendu parler avant mardi dernier?
Ben jamais, j'aurais
mais
pu
croire.
Mais
comment ça se fait qu'on ne nous a pas prévenu avant? Enfin, même nous qui
Commission européenne. Le problème, c'est que ça vient de l'Europe, donc on n'a pas trop fait gaffe en France, y compris moi, mais à coup le pas. Je n'ai pas regardé spécifiquement ce qui se passait du côté de la Commission européenne là-dessus. Je suis tellement habitué à ce que les mesures viennent de Matignon et de l'Élysée, que je ne m'en suis pas préoccupé. Quand c'est tombé, je me suis dit, mais c'est pas possible, puisque ce système n'est pas encore suffisamment fiable. Et alors, c'est les prémices du véhicule autonome, tout ça. Hein. Certains de vous qui nous écoutez, vous connaissez peut-être le système de voiture qui vous permet de rester dans votre voie si vous sortez un petit peu de la voie de circulation. C'est pareil, de temps en temps, c'est pas très efficace. Le correcteur de trajectoire n'est pas forcément très optimisé sur toutes les marques de véhicules. Donc voilà, moi, ça me fait craindre un petit peu des débordements et des grosses failles sur des produits qui sont objectivement pas encore à la hauteur.
Et peut-être des accidents, vu ce que vous avez vécu, Pierre, sur l'autoroute.
Admettons, je sais pas, moi, c'est limité à 90, votre voiture, elle voit pas le panneau de ralentissement à 70, parce qu'il y a un branchage où vous étiez en train de doubler, ça peut arriver. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez être pris au radar derrière. Qui est responsable? La voiture, le limiteur? Eh ben non, on dirait encore que c'est l'automobile.
Il faut
encore passer à la caisse.
Nous rejoint au 0826-300-300, ça vous fait beaucoup réagir ce sujet au standard de Sud Radio en ce dimanche soir. Bonjour Philippe.
Philippe,
est-ce que vous êtes avec nous, Philippe? Oui, bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes à Fond... Oui, très bien, vous êtes à Fontvieille, vous. C'est où ça?
C'est entre Arles et Avignon.
Voilà, comme ça.
C'est le village d'Alphonse Daudet.
C'est ça, on est précis.
De mon moulin.
Il y a un moulin là-bas. Ouais.
Alors, voilà. vous allez mettre de l'eau à notre discours ce soir. Vous êtes pour ou contre?
Moi, je vais être encore pire que vous. Moi, ça me rappelle un truc, ça ressemble étrangement à l'impréparation vaccinale. C'est-à-dire qu'on met des produits sur le marché avant de les avoir réellement testés.
Oui, voilà,
après,
c'est ça.
Après, on s'étonnera des effets secondaires. Moi, j'ai testé déjà ce genre de voiture, puisque j'ai eu la chance de conduire des voitures avec le dernier système embarqué, où vous pouvez lâcher le volant, la voiture, elle freine, elle repart, enfin bon. C'est-à-dire que c'est pas au point. C'est ça le problème.
Ce n'est pas parfaitement au point. Alors, j'ai pas entendu à quoi vous faisiez référence dans la comparaison.
C'est un problème de test. C'est-à-dire que quand on met quelque chose sur le marché, comme les vaccins, hein, c'est pareil, on n'a pas pris le temps d'étudier les effets secondaires.
Donc je vais être très clair, je me désolidarise de ça. Je suis très fier d'être vacciné, très content. J'appelle tous ceux qui m'écoutent à titre personnel à le faire, parce que ça nous permettra quand même.
Je suis simplement pour qu'on fasse des tests. Voilà,
Mais ils sont faits, les tests, vous inquiétez pas. On n'envoie pas les gens au casse-pipe. Je ne sais pas si vous avez vu à l'échelle mondiale, on est quand même plusieurs milliards sur Terre, et beaucoup, et tout le monde va bien. Moi, je n'ai toujours pas la 5G dans mon petit village, et pourtant, tout le village est vacciné.
Revenons sur ce qui nous intéresse là aujourd'hui pour Philippe, sur ce que vous voulez dire, surtout sur le limiteur.
Il faut que le truc soit testé plus. Il faut que ce système informatique marche, d'intelligence artificielle sans doute.
Alors, ça s'appelle adaptation intelligente de la vitesse. Ce sera un système AIV, très exactement.
AIV,
Philippe.
Bon. Bah pour y arriver à AIV, je pense qu'il est trop tôt pour le mettre sur le marché.
Moi, ce qui m'étonne en plus, Pierre, je sais que tu as beaucoup étudié le sujet depuis le début de cette semaine, mais c'est quand même fortement étonnant. Un, je suis quand même assez d'accord avec ce que dit Philippe sur le fait que ça n'a pas été testé. Toi-même, tu l'as testé et tu vois qu'il y a des failles. Que personne n'a été prévu, que dès le 1er juillet 2022, c'est-à-dire dans quelques mois maintenant, tous les véhicules neufs, quels que soient les modèles, devront être équipés. Déjà qu'on a un problème de voitures neuves et de composants, c'est n'importe quoi.
Alors, l'autre bémol, c'est que ça va coûter plus cher. Parce qu'un système, fatalement.
Alors, sur une grande chaîne, excuse-moi, de télévision publique cette semaine, ils ont dit que ça ne coûterait pas plus cher aux
Mais il suffit qu'il y en ait un qui dise blanc et tous les répéteurs disent blanc quand le mur est noir. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais Bercy va pas être content,
Ça va coûter, non mais ça, même quelques dizaines d'euros, c'est toujours plus cher, hein. Vous savez, c'est comme ça, hein. Donc, on va être très clair. Ce système, c'est pas qu'il n'est pas au point, c'est qu'il est digne. Il est acceptable comme une option au véhicule, activable. Je dis bien activable. Or là, le problème, c'est qu'il sera de base activé et avant de démarrer, vous pourrez faire le choix de le désactiver. Mais donc, c'est gênant, parce que, encore une fois, Convention de Genève, moi je lis, l'automobiliste est maître de son véhicule en toutes circonstances. Eh bien, si on doit être maître de notre véhicule, alors de base, il ne devrait pas être activé. Et comme toute option, le fait de l'activer nous rendrait responsables. Or là, on fait l'inverse. Donc je trouve que c'est une option qui est acceptable, comme les régulateurs, les limiteurs, tout ce qui existe actuellement. Oui. Mais de là à le généraliser en tant qu'option de base, je trouve ça un peu gênant. Et les motos, Jean-Marc Bellotti de la FFMC.
Après, il y a Eric qui nous attend au stand.
Comment ça fonctionne ? Il y en aura aussi dessus ou pas ?
Alors,
pour l'instant, on n'en parle pas pour les motos, mais au-delà de ça, moi, ce qui me fait peur, c'est cette déresponsabilisation, lobotomisation de l'humain, que ce soit dans les bagnoles ou autre part. Tout est hyper connecté, et qu'est-ce qu'on devient là-dedans ? Je veux dire, on n'a plus de décision à prendre. C'est extrêmement. Moi, ça me fait extrêmement peur, hein, tous
alors,
ces trucs-là.
C'est ça, mais alors après.
Parce qu'à un moment donné, bon, si on parle du conducteur, si on n'a plus envie de toucher à aucun bouton et que tout se mette en marche tout seul, on n'a qu'à prendre le TGV, hein, dans ces cas-là.
Non, c'est pas ça, c'est qu'on va vers la voiture autonome, Jean-Marc, on le sait.
Oui, bien sûr, mais c'est extrêmement affolant, quoi. Et l'être humain, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait ? Sa responsabilité, sa volonté d'agir. C'est fou, quoi.
Je vous le rappelle, le coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour Paris et l'Île-de-France, faire la petite couronne. Est-ce qu'on n'est pas juste au début de ce qui se passait avant ? C'est-à-dire qu'on a eu. Les limiteurs de vitesse qui ont été installés, mettre ou pas mettre, voilà. Est-ce que ça fait pas partie de ces choses-là qui... C'est un peu annoncé comme ça, de façon exponentielle, genre grosse nouvelle, et en fait, ça va rentrer tout doucement dans nos habitudes de route. Eric.
Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être gagner sur le fait qu'on le mette pas de base, mais que ce soit plutôt une option activable. Bonjour Eric.
Salut Eric.
Oui, bonjour.
0800 26 300 300, vous êtes de Bordeaux, vous. Vous nous dites quoi, pour ou contre ?
Sur le système, difficile de dire, si vous voulez. Je crois que la réponse est mitigée. Je crois que si on pouvait le déconnecter indépendamment et qu'il ne soit pas connecté d'office, ça, je pense que c'est plus dangereux, effectivement. J'étais pas au courant, hein. Je vous avoue, je découvre en écoutant votre émission. Voilà, c'est un petit peu comme tous les systèmes de sécurité que l'on met dans les véhicules aujourd'hui, le drive, etc., qui sont très pratiques, il faut dire les choses comme elles sont, compte tenu de ce que l'on impose comme contrainte aux gens qui circulent. Voilà, on peut pas être pour ou contre, je crois qu'on peut pas aller contre le progrès. Après, la voiture autonome, pourquoi pas, si on a le temps, si on est serein. Voilà, j'ai plaisir de rouler depuis l'âge de 18 ans, j'en ai fait une partie de mon métier. Voilà, si le système ne peut pas être déconnecté, ça peut être dangereux. Hein, on a tous vécu, je pense, enfin du moins pour les gens qui roulent, et assez régulièrement, des situations un peu ubuesques, voire qui pourraient être catastrophiques, et on arrive à se sortir facilement de cette situation par un petit coup d'accélérateur, le judicieux coup de volant jeter un coup d'œil dans son rétroviseur de manière à éviter de cartonner tout le monde. En fait, si vous voulez, c'est très très particulier la conduite. Et je suis un peu d'accord avec le monsieur qui parlait de la lobotomisation de l'automobiliste. Qu'est-ce qu'on veut
Jean-Marc Bellotti, motard.
Mais en tout cas, Eric.
Et automobiliste.
Eric, on a bien compris vos propos et je suis plutôt d'accord. La possibilité de désactiver, ça me paraît être vraiment la bonne solution.
Un peu comme le start and go, en fait.
Ouais, mais que ça reste optionnel dans le sens où chacun peut faire le choix de l'activer ou pas.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, Eric. On vous souhaite une belle journée. Belle journée à Philippe aussi de Fontvieille. René est avec nous aussi au 0826 300. Bonjour René.
Ça passera samedi matin.
René.
Salut René.
Comment ça va ce dimanche soir ? Très bien, et vous-même de Toulouse. Alors, vous pour ou contre le sujet ?
Moi aussi, je veux bien.
Comment ça va, René ?
Et ça va très bien, et bonjour à votre entourage.
Alors, votre avis sur pour ou contre ?
Avant de répondre par oui ou par non, il y a deux préalables à ce bridage, à cette future loi. Il y a deux grands aspects. Il y a la conduite sur autoroute et route départementale, et l'autre grande question, c'est est-ce que le bridage, ça concerne les moteurs, est-ce que le bridage va se faire au détriment de la puissance nominale des moteurs.
Alors,
qu'est-ce que je veux dire par là ? Je rappelle que le couple maximum est à bas régime, et plus le plus ce régime maximum est à bas régime, moins le moteur pollue en vitesse intermédiaire, au rapport intermédiaire, particulièrement la seconde et la troisième vitesse.
Réponse de Pierre René.
Alors René, il vous a pas échappé que de plus en plus la France est en train de basculer sur des voitures avec des boîtes automatiques. Donc le problème se pose quand même de moins en moins puisque la boîte mécanique disparaît progressivement. Donc c'est sur cette question, on peut balayer un petit peu parce que de toute façon ils ne vont pas se préoccuper de cette question-là. En revanche, là où vous avez raison, c'est que on n'est pas sur un bridage du véhicule. véhicule. Ça sera juste une résistance à la pédale plus forte lorsque vous voulez aller au-delà de la limitation. Donc, on aura toujours la possibilité de pouvoir s'extraire d'une situation ou une autre. Ça pose pas de problème. Non, le vrai problème que ça peut poser, c'est les erreurs de lecture de panneautique. Parce qu'on sait très bien qu'en France, les variations de limitation de vitesse sont incessantes. Il y en a tous les 150 mètres parfois. C'est juste de la folie. Et là, derrière, eh bien, ces systèmes qui adaptent la vitesse par rapport à des caméras et à la reconnaissance des panneaux, bah, c'est faillible, quoi. Voilà.
Et pour conclure, Pierre, si c'était une bonne idée, si ce système nous permettait vraiment de ne pas dépasser les vitesses, puisqu'on sait quand même que la vitesse est un accélérateur, aggrave l'accidentologie.
Non, mais c'est une bonne idée si on veut que tout le monde respecte la limitation. En revanche, je vais quand même renvoyer la question sur quelles sont les justes limitations de vitesse. Faisons un audit des routes, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de la politique. Les villes écologistes et de gauche veulent baisser les limitations de vitesse. Les villes de droite veulent garder les limitations de vitesse. Grosso modo, c'est un peu ça, l'échiquier politique. Donc, on est dans des mesures qui ne sont plus des mesures de sécurité routière ni de sécurité des usagers. On est dans de la politique politicienne de bas étage. Donc, moi, je dis OK, mais dans ce cas-là, on fait un audit des limitations de vitesse et on mettra en place ces systèmes le jour où, véritablement, on aura des limitations de vitesse qui sont acceptables et des produits qui sont infaillibles. On ne peut pas envoyer les Français au casse-pipe. Voilà.
Voilà, mais en tout cas, je pense, comme on vient d'apprendre ce sujet-là, enfin, cette bonne idée du limiteur de vitesse dans toutes les voitures neuves à partir du 1er juillet 2022, cette semaine, eh ben on aura sans doute l'occasion d'en reparler concrètement.
Ah oui, je pense.
Allez, merci beaucoup à vous tous et merci à René également d'avoir été notre auditeur, troisième auditeur sur ce sujet. Tout de suite, on va parler d'une autre réalité qui fait peur aussi, mais malheureusement, c'est une réalité qu'il faut mettre devant tout le monde parce qu'il faut vraiment faire en sorte que ça n'arrive plus.
Sud Radio, ça roule.
Vous savez, dans Ça roule et toutes les émissions sur Sud Radio, on parle souvent et beaucoup de protéger nos dépanneurs ou nos patrouilleurs sur la route. Il y a encore eu un accident ce début de semaine qui malheureusement a coûté la vie à un homme jeune dépanneur. Bonjour Luc Le Baron.
Bonjour Laurence.
Président.
Bonjour Pierre.
Président d'une association qui s'appelle Fier d'être dépanneur. On s'est beaucoup parlé cette semaine tous les deux parce qu'il y a encore eu un décès d'un homme plutôt jeune, 35-40 ans, dépanneur
ouais,
de son
ans,
métier.
Ouais.
30 ans. 30
oh.
ans. Ouais. Ça s'est passé où? Sur la 86, c'est ça?
Ça s'est passé sur la 86 à hauteur de Nanterre. Ouais.
Allez, on situe pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la couronne d'Île-de-France qui est après le périphérique.
Hein, la grande couronne.
Ouais.
Oui, la grande couronne.
C'est le cercle qui entoure Paris en périphérie.
Qu'est-ce qui s'est passé, Luc?
Eh ben, écoute, il était en train de faire un remorquage d'une moto. Il était en train de charger une moto sur le plateau et en chargeant, enfin, une fois qu'il a eu chargé la moto sur le plateau et au moment de la sangler, eh ben, il y a une voiture qui est passée trop près de lui et qui l'a tapé et ça l'a envoyé voler un peu et puis, ben, malheureusement, il est décédé sur le coup, quoi.
Alors déjà un message pour la famille, hein, ouais. Une grosse pensée, mais un petit coup de gueule.
Et pour tous les dépanneurs, parce que...
Un petit coup de gueule, parce que je connais pas la cause de l'accident. Il y aura une enquête, je veux pas mouiller, mais je suis pas fou, et je les vois sur autoroute. 9 fois sur 10.
Téléphone. Alors, en tout cas, la 86, enfin, juste pour remettre les choses en place, c'est un peu comme les 4 voies qui sont autour de toutes les grandes métropoles de France. On n'est pas limité à 130, c'est en dessous, c'est max 110, voire 90. Hein,
surtout 90, donc ça veut dire qu'on s'y ennuie. C'est vrai que la tentation, quand il n'y a personne, elle peut être forte de faire autre chose, de regarder un message.
Non, mais, okay.
Non, mais la tentation, il faut la comprendre, on l'a tous, il n'y a pas de problème. En revanche, là, c'est pas une vie qu'on brise. Déjà, c'est la vie de celui qui a fauché, parce que je ne crois pas qu'il voulait tuer quelqu'un.
Non.
Et c'est la vie de ce pauvre homme et la vie de toute sa famille autour, c'est une horreur.
Luc Le Baron, vous qui êtes président de cette association, Fier d'être dépanneur, comment est-ce qu'on peut faire entrer... Malheureusement, on sait que les accidents, ça arrivera toujours. Là, malheureusement, c'est un de vos collègues.
Ouais.
Ça peut être quelqu'un d'autre, mais...
Moi, je dis que, alors, déjà, on a mis en place et on en a déjà parlé pas mal de fois ensemble.
Le corridor de sécurité.
Il faut absolument que les gens se mettent dans la tête de respecter le corridor de sécurité, de s'écarter à l'approche de véhicules en intervention, que ce soit des dépanneurs, des pompiers, des gendarmes, des véhicules de patrouille. Il faut s'écarter.
Quitte à ralentir et à créer, comme ils le font au Canada, c'est obligatoire. Enfin, ils le créent.
Exactement.
C'est virtuel, mais.
Exactement. Et puis, alors, on a le souci que sur les autoroutes de province, enfin, sur les grosses sociétés d'autoroutes, il y a des bandes d'arrêt d'urgence qui sont vraiment des bandes d'arrêt d'urgence. Là, je suis pas sûr qu'à cet endroit-là, sur la 86, les bandes d'arrêt d'urgence, nous, on les craint en tant que dépanneurs, parce qu'ils sont pas larges.
Ouais.
Donc, dès l'instant où tu gares un camion sur une bande d'arrêt d'urgence, dès l'instant où tu descends de ton camion, t'es déjà sur la route. Donc, alors là, il a chargé sa moto. Et je pense qu'il est peut-être qu'il empiétait un petit peu sur la route. Enfin bon, et voilà. Le souci, il est là. Il faut s'écarter. Il faut laisser un espace de sécurité aux gens qui travaillent sur le bord des routes et respecter le corridor.
Ouais.
Respecter.
Je suis d'accord avec Pierre, c'est que malheureusement, on est tous pareils, moi je fais des erreurs aussi, on est quand même moins attentif. Et en fait, il faut juste remettre bien les mains sur son volant et le regard devant, quoi.
Après,
on s'oblige à ça, quoi.
Vous prenez les motards, par exemple, c'est la preuve humaine qu'on peut se passer de son téléphone au volant et de regarder des vidéos sur YouTube.
Ah bah là, oui,
hein.
C'est clair.
Voilà, donc, sinon, on se casse la gueule. Hein. Donc, de toute façon, je pense que quand même, il va falloir apprendre à lâcher un peu le téléphone portable, et ça va passer qu'avec des campagnes de sensibilisation.
Mais pas que le téléphone, je suis d'accord avec toi, Pierre, mais juste, chacun, on doit juste se remettre un petit peu les mains sur le volant et le regard devant. C'est-à-dire que, enfin, il y a un moment, il faut qu'on se flagelle, se pute. Enfin, tu vois, c'est...
Non, mais je pense que la distraction, comme on en avait parlé, la distraction, c'est 80% des sujets d'accident.
Parce que regarde, l'écran GPS, on en avait parlé quand c'est arrivé, souviens-toi, il y a 7-8 ans qu'on fait l'émission, moi je t'ai toujours dit, ok, c'est sympa, mais c'est... une vraie inattention à la route, l'écran GPS.
C'est le moins pire, parce que quand t'es perdu et que tu cherches ta route, t'es stressé.
Non mais regarde, moi perso, et après on passe, on va devoir passer à autre chose. Personnellement, tout est intégré dans ma voiture avec le CarPlay, tu sais.
Ouais.
Quand on m'appelle, ça passe dans mon écran GPS. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus le regard, je regarde qui m'appelle. Tout ça, ça
non,
peut jouer
vrai,
quand même
de toute façon,
aussi,
moi, les seules fois où je suis pris au radar, parce que je fais très attention, vu que je roule quand même pas mal, à chaque fois, c'est quand même en main libre, hein, même je suis au téléphone, du coup, je suis concentré sur un peu de route et un peu de communication. Téléphonique, et c'est une évidence que derrière ça génère des comportements accidentogènes. Alors être pris au radar, c'est pas le truc le plus grave du monde, mais tuer quelqu'un, vous foutez la vie en l'air de tout le monde, y compris la vôtre. La conduite, ça peut être un truc super sympa, hein, ça peut être très bien quand on est attentif, et je pense qu'effectivement le respect de l'autre, les distances de sécurité quand on dépasse un deux roues, que ce soit motorisé ou pas, voilà la clé c'est d'avoir les yeux sur la route.
Merci beaucoup en tout cas Luc, et puis nos pensées de toute l'équipe de Sud Radio, évidemment pour la famille de ce jeune homme de 30 ans, dépanneur. L'association s'appelle Fier d'être dépanneur. Il faut qu'on soit tous maintenant conscients qu'on a la vie des autres aussi un peu dans nos mains, surtout quand on a notre guidon ou notre volant dans nos mains. Bon courage, Luc Le Baron.
Merci à vous deux, merci, bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous voici arrivés dans les 4 dernières minutes de notre rendez-vous. C'est le moment de l'échange avec Pierre Chasseret. Vous avez envie de discuter avec Pierre qui met sa casquette de DG de 40 millions d'automobilistes. C'est le moment. Salut Gérard qui nous a appelé au 0826-300-300. Bonjour.
Oui, bonjour. Bah, simplement, moi je suis vraiment désolé parce que d'abord j'ai encore une petite Clio, hein, qui est une très bonne voiture. J'ai eu avec mon épouse, on avait 3 enfants. On a eu l'Espace Renault, qui était vraiment une très très bonne voiture. Et aujourd'hui, je trouve ça lamentable. Qu'est-ce que vous voulez que vous savez, ça me surprend pas. On ne produit plus de voitures chez nous. On ne produit même plus nos médicaments.
Ah ouais, mais je suis pas d'accord. Hein. Il y a des tas de marques étrangères qui proposent des véhicules super et qui sont fabriqués. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est français que c'est mieux. Faut qu'on arrête d'être chauvin. On dit toujours les meilleurs vins du monde. C'est pas fait vrai. Il y en a des bons ailleurs.
Moi, je n'y connais pas. Écoutez, excusez-moi, mais moi je n'y connais pas du tout en voiture. Je suis pas assez compétent pour m'y connaître en voiture. Mais j'estime quand même que en France, on a quand même l'industrie automobile.
C'est qu'en fait, vous êtes en train de dire quoi là, Gérard? C'est que vous en avez marre qu'on perde les emplois sur la filière auto?
Bien sûr, alors l'automobile, et puis demain, c'est ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme
mais
ça.
Vous savez pourquoi on perd? On perd sur l'automobile en France, pas parce que nos véhicules sont moins bons, au contraire. Je trouve qu'en termes de qualité, les derniers modèles français rivalisent largement avec beaucoup de véhicules allemands. Et même sur le design, hein, j'ai vu la dernière 308,
elle est
je la trouve super belle. Donc c'est pas un problème là-dessus. Non, moi je crois qu'on dégoûte tellement les gens de l'automobile et de tout ce qui a un moteur qu'au final, il y a des Français qui achètent plus de voitures. Parce qu'ils se disent, de toute façon, je suis taxé, matraqué de partout. Assurance auto hyper chère, radar partout, mesure tous les jours, tous les matins. Tous les matins sur Sud Radio à 6h17, je fais une chronique. Et à chaque fois, je me dis, peut-être qu'un jour, j'aurai plus rien à dire. Et tous les jours, il y a une nouvelle actu. J'arrive même pas. Il y a des choses dont je voudrais parler, je peux pas en parler. Parce qu'il y a toujours une nouvelle mesure contre les automobilistes qui tombent. Donc, franchement, au bout d'un moment, il y en a marre. Voilà.
Oui, mais vous savez, déjà, vous avez maintenant, moi, je le regarde bien avec mon épouse lorsqu'on va faire les courses. Il y a plus de 80% des voitures ou qui sont à 4 ou 5 places, il y a une personne dedans.
Bah oui, mais hein? Bon, il a le droit.
Oui, non, mais il a le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que les voitures ne correspondent pas aux vrais besoins des gens.
Ben si, hein, elles correspondent. Parce que regardez, moi, j'ai une voiture, j'ai 3 enfants. J'ai un bébé, il a 2 ans.
Nous aussi, on a eu 3 enfants.
Non, mais je vous explique. J'ai un petit, il a 2 ans. J'ai un grand qui a 13. Et ma fille qui va avoir 12. Ben, quand je prends la voiture, vous savez quoi? Ben, ça me fait un SUV, je suis tout seul dedans. Sauf que ce week-end, ben, on est parti en week-end et on était 5 dedans avec les valoches. Donc, faut arrêter de porter un jugement sur les autres. Et dire que des petites voitures, il y en a, ça existe, et puis il y a des véhicules un peu plus gros, familiaux, et tout le monde a droit de rouler. Faut arrêter cette chasse, faut pas tomber dans le piège qu'on nous tend de la stigmatisation en disant, regarde l'autre là, tout seul dans sa voiture. L'autre, il a le droit, en fait. S'il veut être sur une moto, il est sur une moto, dans une voiture. Électrique, électrique, comme il veut, en fait.
Attendez, moi, je suis pas du tout contre la voiture, hein. Moi, mes parents n'ont jamais eu de voiture. Donc, je peux vous dire que je sais ce que c'est qu'apprécier une voiture. Hein.
Ah oui, oui, non, mais je sens bien, moi. Puis on voit bien, Gérard, en fait, que vous vouliez aussi évoquer cette perte un petit peu du savoir-faire français dans l'automobile, écoutez, par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Merci beaucoup, Gérard.
Et on va dire à Gérard qu'il a raison, parce que c'est quand,
oui,
même, c'est quand même 10 à 15% du PIB de la France, le secteur automobile.
Voilà. Hein. Exactement, voilà. Et sans compter le PIB, mais surtout les emplois.
Et c'est ça.
Les emplois dans la province.
Exactement.
Merci beaucoup, Gérard. Merci d'être. Mais il a raison, Gérard. Voilà, les emplois. Enfin, on le sait tous les deux. Hein, on sait bien que la filière auto est très touchée par tout ce qui se passe. Merci à tous d'avoir été avec nous. Grande émission avec beaucoup, beaucoup de réactions. Et merci à notre invité d'être resté avec nous, Monsieur Bellotti, le coordinateur Jean-Marc pour la région Paris et Petite Couronne pour les motards en colère.
Il a du boulot pour ça.
Merci à vous.
Ouais. Et puis en plus, c'est tombé sur une animatrice qui l'a un peu énervé.
Allez, bonne route à tous. Soyez prudents. On se retrouve la semaine prochaine avec Malolo.
Avec plaisir, surtout, il sera là aussi.
Voilà, on l'invite.